France Musique.
Bonjour Richard Peduzzi.
Bonjour.
Scénographe, plus célèbre, plus grand scénographe français, avec cette collaboration de très longue date avec Patrice Chéreau, avec Luc Bondy également, à l'opéra et au théâtre, mais aussi peintre, designer, créateur de mobilier, ancien directeur de l'école des arts déco, puis de la Villa Médicis à Rome. Pour mieux vous connaître, il faut lire « Là-bas, c'est dehors », suivi de « L'odeur du théâtre », une réédition Actes Sud papier. On plongera dans ce livre et dans ses nombreux documents, ouais, photographies, esquisses, maquettes, dans quelques minutes. Mais auparavant, un bal masqué, c'est une nouvelle production de l'Opéra de Verdi au Grand Théâtre de Genève. C'est ouais, à partir de mardi jusqu'au 22 juin. Ouais. On nous écoute d'ailleurs à Genève. France Musique est entendue à Genève et bien sûr oui, partout bien sûr, dans le monde sur francemusique.fr. Ouais. La mise en scène est signée Giancarlo Del Monaco, Pinka Steinberg à la baguette. Et c'est donc vous qui avez conçu les décors. Alors c'est un opéra, un bal masqué sur lequel vous avez déjà travaillé il y a une quinzaine d'années, en 2004 à Montpellier.
Oui. Non, moi pas. Non, j'ai travaillé sur un bal masqué à Hambourg.
À Hambourg,
et c'est peut-être un de mes frères qui a travaillé sur un bal masqué à Montpellier, mais c'est pas moi.
D'accord.
Donc un bal masqué à Hambourg, et je pense que j'avais raté assez confortablement le décor. Voilà. C'était difficile pour moi, j'avais pas bien compris l'œuvre, et j'espère l'avoir mieux compris maintenant. C'est une œuvre. D'abord, j'avais jamais travaillé avec hormis l'Italienne à Alger de Rossini, qui est le premier opéra que nous avons fait avec Patrice Chéreau, j'avais plus jamais travaillé sur des opéras italiens. Chéreau ayant rencontré Pierre Boulez, et on s'est plutôt dirigé vers les Allemands et les Autrichiens, quoi. Donc, et ça m'a passionné quand on m'a appelé là pour me demander si je voulais. Tobias Richter, le directeur du théâtre, m'a appelé pour me demander si je voulais. Si je voulais faire les décors pour cette pièce, et je pense que c'était lui qui devait faire la mise en scène. Et ça m'a amusé. En plus, je dois dire que ce que j'appelle l'odeur du théâtre et la cage de scène me manquait. Je ne pense pas retrouver ce que j'ai perdu avec Chéreau et avec Luc Bondy, mais quand même, j'avais besoin de me confronter à un texte, à un livret, à une musique et à la cage de scène surtout, qui pour moi est le lieu de toutes mes évasions.
C'est la première fois que vous revenez à l'opéra depuis la disparition de Patrice Chéreau,
écoutez,
Luc Bondy, Richard Peduzzi.
C'est pas la première fois, parce que tout de suite après la mort de Patrice, il y a une des personnes qui lui était le plus cher, avec qui il travaillait, Vincent Huguet, m'a demandé de faire un opéra avec lui, qui était Les Contes de la Lune Vague après la pluie. Et c'était plutôt, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite, il y avait pas de moyens, il y avait rien, mais c'était l'idée de...
Il y avait une filiation aussi.
C'était accompagner Patrice avec Vincent un peu plus loin, quoi. Et j'en garde un excellent souvenir.
Ce nouveau bal masqué à Genève, que proposez-vous? Est-ce que cette fois vous avez réussi après l'échec d'Hambourg? Comment vous décririez-vous l'univers?
Enfin, l'échec, c'est moi qui le dis, c'est parce que j'espère continuer à être très, très rigoureux et exigeant avec ce que je fais. Parfois, quand je me recule un tout petit peu, j'aime pas ce que j'ai fait. Bon, et... alors là, pour le moment, je trouve que c'est intéressant. La pièce est formidable. Enfin, la musique est absolument magnifique. Et l'histoire aussi est incroyable, quoi. C'est une histoire qui raconte la solitude de chacun des protagonistes, en fait. C'est tellement ambigu, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi par rapport à qui. On sent bien évidemment que le ténor, enfin le rôle principal, qui dit ne jamais avoir fauté avec l'ami de son meilleur ami, on n'en est pas sûr du tout. Le meilleur ami lui-même, il n'en est pas convaincu. Personne n'est convaincu de rien, tout le monde se cache et se ment. Le jeune page lui-même a une connivence, une relation très ambiguë avec le comte, et tout ça se termine évidemment par le meurtre et par l'aveu du comte de son impuissance vis-à-vis du monde et vis-à-vis de tout ça, qu'il préfère mourir.
Cette musique merveilleuse dont vous parlez de Verdi,
oui.
En voici un extrait. Je vous emmène pas à Genève, mais à La Scala.
Thank you.
candide che qui son io. Or tu, Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai.
A per futuro, a per futuro.
Profetessa, extraite du Bal masqué de Verdi, c'était l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan dirigé par Claudio Abbado, et cette voix, celle de Placido Domingo, Richard Peduzzi, que vous connaissez sans avoir jamais avoir vraiment travaillé
non,
avec lui.
Je l'ai croisé plusieurs fois, mais je le connais pas. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et sa voix est incroyable, quoi.
Un bal masqué à partir du 4 juin, mardi, au Théâtre de Genève, au Grand Théâtre
Grand
de Genève,
Théâtre de Genève ouais.
Jusqu'au 22 juin, avec vous des corps, Richard Peduzzi. C'est quoi la différence entre un décorateur et un scénographe?
J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. En fait, moi, pour moi, si vous voulez, les scénographe en italien, c'est vraiment c'est le théâtre, quoi. C'est un décorateur de théâtre. Donc je pense que, pour moi, avant tout, faire des décors de théâtre, comme je l'ai souvent dit, c'est construire ma peinture. Donc c'est au milieu d'une cage de scène, comme ça, c'est inventer toutes les rêveries et toutes les évasions possibles en les construisant, en les peignant, en les imaginant. Si vous voulez, le texte, le livret et la musique sont un peu comme les paysages qu'avaient les peintres autrefois quand ils plantaient leurs chevaliers, je pense à Cézanne devant la montagne Sainte-Victoire, quoi.
C'est ce que vous racontez dans Là-bas, c'est dehors, suivi de L'odeur du théâtre chez Actes Sud Papier, une réédition augmentée avec le récit d'épisodes de votre vie et des correspondances, on pourrait dire, dans ce récit avec des photos, des maquettes, des esquisses. On comprend combien des épisodes, des lieux de votre rencontre ont nourri vos créations. Est-ce que c'est en vous attelant, il y a quelques années maintenant, à cet ouvrage, que vous en avez pris conscience ou tout était déjà conscient entre ces
correspondants ? Non, je pense que c'était conscient, bien sûr. Mais j'aime beaucoup écrire. Écrire, c'est, pour moi, c'est un peu comme dessiner. En écrivant, j'ai l'impression de dessiner des mots, vous voyez, et de m'exprimer. Comme ça, je fais souvent les deux. Quand je fais un dessin, j'écris à côté ce que je veux dire avec ce dessin, à quoi il me fait penser. Tout à coup, je cite une phrase, par exemple, de Faulkner, une phrase que j'adore et qui ressemble à ce que je pense vraiment de l'existence. C'est dans Lumière d'août, à un moment donné, il y a le forçat, le rose principal, comme ça, qui veut s'enfuir de ses chez beaux-parents, des gens qui l'ont élevé, qui sont pas ses parents. Il l'est, et Faulkner dit à un moment donné, il avait la force et la volonté de l'aigle, mais comme l'aigle, il ne savait pas que l'humanité tout entière, que le monde tout entier n'était jamais qu'une simple cage. Et si vous voulez, cette histoire de cage, dans laquelle on est tous, je trouve que la cage de scène du théâtre m'a permis d'en comprendre pas mal de clés, quoi, et d'y construire toutes mes rêves, mes pensées, mes évasions, et voilà. Et encore une fois, l'histoire du bal masqué, c'est pour moi une sorte de marqueterie, de labyrinthe, d'un instrument de musique, en fait, qui ressemble à une cage en bois, comme ça. C'est un décor très très fermé, avec un palais désert, avec des bois chauds, mais derrière il y a comme ça quelque chose d'assez glacial. J'essaie de raconter l'histoire le mieux possible en l'enfermant dans un coffret comme ça qui s'ouvre et se referme au gré de l'histoire.
Cage, évasion, enfermement, ces mots-là renvoient à la détention, à la prison, et on découvre, moi j'ai découvert dans votre livre que c'est peut-être un point de départ, puisque votre mère était détenue.
C'est certainement un point de départ et un point de trouver l'enfermement, la détention insupportable, quoi.
Votre mère était en prison quand vous
étiez
enfant.
Ma mère était en prison, elle avait 20 ans, elle est restée là jusqu'à 30 ans. C'était, à ce moment-là, c'était une prisonnière politique, comme on disait. Et donc, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait. Et certainement que la peinture, le dessin, ce que j'ai appris par la suite avec la musique et la littérature m'a aidé à comprendre un peu ce que ma mère avait dû ressentir.
Et là-bas, c'est dehors, le titre de ce livre, c'est une phrase que votre mère prononce et que vous réentendrez bien plus tard dans la bouche d'une petite fille.
Oui, elle le prononce parce que quand je vais la voir, comme ça je devais avoir 6-7 ans, je sais pas, c'est l'époque où un enfant se réveille au monde et à la vie, et voir sa mère très belle, très jeune, comme ça, derrière des barreaux, pas pouvoir la toucher, pas pouvoir l'embrasser, c'est assez vertigineux, quoi, ça vous marque à vie. Et je lui dis, mais quand est-ce qu'on va se voir et tout ça, elle me dit là-bas, je lui dis où là-bas, dehors, elle me dit. Donc pour moi, là-bas, c'est dehors, quoi.
On va vous redire là-bas, c'est dehors, des années plus tard, dans la bouche d'une petite
fille. Et alors, quand on a monté la dispute avec Patrice Chéreau, j'avais fait un décor comme ça, où il y avait une forêt au fond du décor. Il y avait des murs qui bougeaient, qui dansaient autour de la forêt. Et à la sortie, à la fin du spectacle, les gens ont voulu, des amis ont voulu voir le décor comme ça, et je leur ai montré. Et en fait, il y avait les feuilles de la forêt sentaient bon, sentaient la chlorophylle parce que j'avais mis un truc dedans pour les conserver. Et la petite m'a dit, mais là-bas, c'est dehors. Et ça a été un choc, quoi. Je me suis souvenu du là-bas, c'est dehors de mon enfance.
Là-bas, c'est dehors, suivi de L'odeur du théâtre, livre de Richard Peduzzi. Beau livre avec beaucoup de photos, d'esquisses. Richard Peduzzi, je voudrais qu'on écoute une musique, puis on en parle juste après.
D'accord. Thank you.
Richard Peduzzi, qu'est-ce que c'est ?
C'est Alabama, dans de Coltrane.
Absolument. C'est une musique que vous citez dans votre livre, La basse est dehors, comme l'une des musiques les plus poignantes de l'histoire de la musique pour vous.
Oui, il y a deux choses comme ça. C'est pour moi, c'est étrange. C'est Coltrane et Alban Berg, le concerto à la mémoire d'un ange. Et ça, c'est aussi quelque chose de bouleversant. Ça a été composé dans la nuit. Suite au viol et au massacre de 7 petites filles blanches par le Ku Klux Klan, et Coltrane a composé ça. Ouais, je trouve que c'est une musique bouleversante.
Vous êtes passionné.
Quand je dis, c'est moi qui le ressens, quoi. Ouais.
Vous êtes passionné de jazz. On parlait tout à l'heure de Stéphane Grappalli qu'on a écouté juste avant votre arrivée.
Formidable.
J'ai découvert votre culture sur Grappalli. Et j'ai découvert dans ce livre également que le jazz vous a beaucoup inspiré pour cette production légendaire du Ring à Bayreuth en 1976 avec Chéreau et Boulez.
Alors,
c'est curieux.
Bien sûr, c'est curieux, mais quand j'y repense, d'abord j'étais tellement angoissé d'avoir à faire tous ces opéras et qu'à la fin c'était l'un après l'autre, je voyais pas le bout, quoi. Et quand on est arrivé au crépuscule des dieux, et comme on avait avec Patrice imaginé que tout ça se passait dans le New York de l'époque, c'est-à-dire dans les architectures industrielles du 19e, ce qui ressemble plus à ça maintenant, je veux dire tout le bas New York était à ce moment-là fermé et désertique, et souvent j'allais entendre du jazz là à ce moment-là, et ça m'inspirait plus que d'écouter Wagner. Ça me stimulait, ça me donnait des idées pour les dessins, pour ce que j'étais en train d'imaginer du dernier chapitre du Ring, le crépuscule. Mais quand j'y pense bien, en fait, je me dis au fond que les grands musiciens de jazz comme Mingus, comme Coltrane et même Miles, je sens qu'il y a Wagner à l'origine de tout ça, quoi. Je sens qu'il a inventé tellement de choses en musique que dans certaines choses de Mingus, je retrouve l'école de Vienne, et bien sûr dans l'école de Vienne. Enfin, je sens que au loin, il y a Richard Wagner. Et donc, à l'époque, j'avais pas compris. C'était plus facile pour moi de prendre Coltrane. Mais je le regrette pas parce que ça m'a permis d'inventer une chose à l'époque très contemporaine, quoi.
L'odeur du théâtre, c'est aussi l'odeur du neuf qui régnait il y a encore quelques mois dans un nouveau théâtre, la Scala Paris, dont vous avez conçu l'identité visuelle, les décors, la couleur même. Elle vieillit bien, cette Scala ?
Ben écoutez, je pense qu'elle vieillit très très bien. J'y suis pas allé depuis un moment, mais les dernières fois où j'y suis allé, je crois qu'une des dernières fois, j'ai vu un des plus beaux spectacles que j'ai vu cette année, et même depuis longtemps, très touchant, très profond, qui s'appelle Raoul de James Tirey. Et vraiment, j'étais choqué dans le bon sens du terme par la force de ce que ce jeune homme raconte et veut dire, de l'enfermement, de l'évasion lui aussi, et une façon très très nouvelle et particulièrement à lui, quoi, d'inventer l'espace théâtral. Et ça fonctionnait merveilleusement à la Scala, ça. Donc voilà.
Richard Peduzzi, je vous propose d'écouter quelques mesures de Philippe Boussemans.
Que je connais bien.
Il s'habitua aux voix qu'il entendait.
C'est long encore, j'en ai marre.
Non, c'est plus très long.
Ça va faire mal?
Non. Et puis, un matin, il eut l'impression de voir la créature se lever.
Ça, c'est Pinocchio de Philippe Boussemans, c'est son dernier opéra avec Joël Pommerat. Vous avez travaillé avec lui sur Yvonne, princesse de Bourgogne, c'était il y a 10 ans, qui sera repris l'an prochain.
Oui, je pense que c'est Marie-Louise Bondy qui va reprendre la mise en scène de Luc. Et ça va être repris à la Bastille, je pense, l'an prochain. Ou à l'Opéra Garnier, je sais pas.
C'est rare qu'on reprenne un spectacle 10 ans après, comme ça.
Ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas. C'était un beau spectacle, donc Je pense que Marie-Louise le connaissait très bien, elle fait de belles mises en scène, elle va le reprendre très bien. Je pense qu'elle le reprend, en principe, elle le reprend exactement, elle le reprend la mise en scène de Luc comme elle était, quoi.
Du 26 février au 8 mars au Palais Garnier, Yvonne, princesse de Bourgogne de Félix Mousmans, et au Grand Théâtre de Genève à partir du 4 juin. Un bal masqué de Verdi, Là-bas c'est dehors, suivi de L'odeur du théâtre chez Actes Sud Papier. Merci beaucoup Richard Peduzzi d'être venu ce matin.
Et ben c'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt.
Et c'est l'heure de Roselyne Bachelot qui prend position. Bonjour Roselyne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Oui, je sais parfaitement que je ne vais pas me faire que des amis, car les maisons d'opéra sont peuplées de gardiens du temple qui considèrent les œuvres lyriques comme des cérémonies rituelles dont il ne faudrait changer ni le contexte historique, ni le décor, ni le profil psychologique des personnages. Je m'en faisais la réflexion une fois de plus en attendant les huées qui ont salué la mise en scène d'Olivier Py pour la Manon de Massenet à l'Opéra Comique. Pourtant, quelle intelligence dans cette lecture. Nous avons vu tellement de Manon présentées comme une fofolle, gentiment écervelée, les plus osées allaient timidement au personnage d'une coquette intéressée, trouvant sa rédemption dans la mort. Olivier Py dit crûment ce que le livret de Meillac et Gilles dit sans détour. Manon est une prostituée dont la chair est livrée à des bourgeois lubriques et dont le cousin, l'infâme Lescaut, est un proxénète abominable. Nulle bluette romantique là-dedans, mais une satire sociale désespérée, et le « ne bronchez pas, soyez gentille » résonne comme l'écho des injonctions de soumission qui ont accablé les femmes pendant des siècles et les accablent, hélas, encore aujourd'hui. On comprend bien que les amateurs d'opéra du 19e siècle ne voulaient pas voir cet aspect des choses, eux qui considéraient les actrices et les danseuses comme des corps dont ils pouvaient disposer à loisir. Mais en ce début du 21e siècle, il nous faut revisiter un certain nombre d'œuvres et des mises en scène talentueuses nous y invitent. À la réouverture de la Fenice en 2004, Robert Carsen avait délibérément restitué Violetta, la Traviata, dans toute la vénalité de son personnage, en couvrant le sol de sa maison de campagne de billets de banque, puis en transformant la scène de fête chez Flora en cabaret interlope. Carsen abandonne les visions à l'eau de rose dont on nous a abreuvé et dit là encore que Violetta est une prostituée, non pour l'accabler bien sûr, mais pour dénoncer l'argent et l'impérium social. C'est sans doute dans cette nouvelle lecture des rapports hommes-femmes que les metteurs en scène d'opéra ont été les plus novateurs. On se rappelle aussi avec enthousiasme du Così fan tutte et de Chéreau en 2005. Certains s'étaient indignés que l'on ne retrouve pas la légèreté ou le sourire de Mozart. La vérité est que Mozart n'est pas léger, n'est pas souriant. C'est aussi des opéras marqués par l'amertume, la tristesse, la désillusion, le désespoir. Ceux qui trahissent Mozart sont bien ceux qui en ont fait des fantaisies gentillettes. Et à ce moment, je repense au fabuleux Raimondi, son Don Alfonso, qui avait quitté les habits habituels du barbon et du bouffon pour prendre ceux d'un vicieux cruel au ressort maléfique, amateur de bouffe et d'amour tarifé. C'est bien Chéreau qui dit la vérité de Mozart. Évidemment, toutes les mises en scène actuelles ne sont pas à défendre, certaines sont indéfendables. Mais si nous voulons que le théâtre lyrique reste vivant, il faut suivre la démarche novatrice voulue par Wolfgang Wagner à Bayreuth il y a 50 ans avec son fameux atelier de Bayreuth. Les œuvres y sont ainsi analysées par les plus grands. Huées au départ, elles deviennent des classiques ovationnés parfois dès l'année suivante. Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de voir les maîtres chanteurs de Nuremberg dans l'extraordinaire réalisation de Barry savent que c'est la création bouleversante qui fait vivre Wagner et le respect morbide de la tradition qui le tue. Allez, on entend le fameux « Regardez-moi bien dans les yeux, ne bronchez pas, soyez gentils ». C'est Gino Quilico qui chante Lescaut. Il est dirigé par Michel Plasson avec l'orchestre du Capitole de Toulouse.
Roselyne Bachelot, rendez-vous vendredi prochain et sur les réseaux sociaux.
Attendez-moi donc un instant. Un seul moment. Ne bronchez pas, soyez gentil, et n'oubliez pas mon cercueil que je
Un extrait de Manon de Jules Massenet, Regardez-moi bien dans les yeux. C'était Gino Quilico, l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Voilà, Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi, retour de Saskia Deville et son invité Simon-Pierre Bestiaud. Moi, je vous retrouve demain avec Alain Surance, le directeur d'Angers Nantes Opéra. Ce sera à 8h20 dans Génération France Musique. Antoine Giraud et Stéphane Poitevin étaient à la technique. Une émission préparée par Marjolaine Portier-Kaltenbach avec également Max Dosolme et Antoine Baglin. Réalisation Yacine Bouzard. Dans un instant, Émilie Munera, Rodolphe Bruno-Boulmier.
À réécouter sur francemusique.fr.